France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous, et nous commençons par cette carte des États-Unis ce matin qui se colore de bleu ou de rouge au fil des heures. Les résultats pour la présidentielle 2020 tombent peu à peu aux États-Unis, sans qu'un nom ne ressorte pour le moment. Les sondages outre-Atlantique donnaient ces derniers jours une confortable avance pour Joe Biden. Il n'en est rien ce matin. Donald Trump a visiblement réussi à mobiliser ses troupes. Nous rejoignons donc à Washington Jean-Marc Four pour commencer cette matinée états-unienne. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour à tous.
Il est 6h, il est minuit chez vous et c'est toujours très serré Jean-Marc.
Très serré en effet, beaucoup plus serré en tout état de cause que tout ce que prédisaient les instituts de sondage, une nouvelle fois dans l'erreur comme il y a 4 ans, et Donald Trump peut espérer l'emporter à nouveau. Le président sortant semble assuré de gagner en Floride, c'est bien parti également dans l'Ohio et le Texas que son parti devrait conserver. À l'inverse, la vague bleue démocrate annoncée n'est pas au rendez-vous. Joe Biden est évidemment parti pour l'emporter dans les fiefs habituels du parti démocrate, New York, la Californie, mais il ne parvient pas pour l'instant à faire basculer des États républicains, hormis peut-être l'Arizona. Tout devrait donc se jouer dans 3 États, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Pour l'emporter, Joe Biden doit s'imposer dans 2 d'entre eux et le dépouillement est toujours en cours. Pour compliquer encore les choses, ce dépouillement est suspendu au moins jusqu'à demain à Philadelphie, la ville principale de Pennsylvanie, tant le volume de vote postal anticipé est important. Donc par effet en chaîne, il va donc peut-être falloir attendre pour avoir un résultat national. En tout état de cause, Trump a réussi de toute évidence à remobiliser son électorat en multipliant les meetings de fin de campagne. Et à l'inverse, Joe Biden n'obtient pas les résultats espérés au sein de la communauté latino et de la communauté noire.
Merci beaucoup Jean-Marc Four. Nous vous retrouvons tout au long de cette matinée sur France Culture pour les quelques résultats et analyses de cette présidentielle aux États-Unis. L'actualité, elle est aussi à Vienne. Depuis avant-hier soir, l'attaque terroriste dans les rues du centre historique de la capitale autrichienne. Attentat qui a fait 4 morts, une 20aine de blessés. L'assaillant avait été abattu. L'attaque a été revendiquée hier par l'organisation État islamique. Et puis notez en France que les députés La République En Marche n'étaient pas suffisamment nombreux hier à l'Assemblée nationale pour prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la mi-février. Il l'est pour le moment prolongé jusqu'au 14 décembre.
Tous les soirs sur France Culture, la petite musique du temps présent, Marie Richeux.
Prenons le temps de nous pencher sur un objet artistique du moment, de le découvrir à la lumière du dialogue et des archives qui s'y nouent. Approchons, partageons ce travail étrange et riche qu'est celui de l'art et de la pensée. Faisons-le par les temps qui courent, pendant que les temps courent, dans une époque qui forcément a des choses à nous dire, à moins que ce soit l'inverse ou à moins que ce soit les deux.
Par les temps qui courent, du lundi au vendredi à 22h15 sur France Culture et sur franceculture.fr. USA Forever. De Tocqueville à Maïlis de Kerangal, en passant par Baudelaire, Beauvoir ou Chantal Thomas, les États-Unis ont toujours fasciné les écrivains français. Entre amour, haine, modernité et grands espaces, cette semaine dans LSD, c'est un petit peu plus de littérature et moins de politique, mais on reste en Amérique. La série documentaire de Virginie Bloch-Léné et Clotilde Pivin, du lundi au jeudi à 17h et 23h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Il est 6h03, prochain rendez-vous d'actualité à 6h30 pour le journal et notamment les derniers résultats de la présidentielle aux États-Unis. Pour le moment, c'est l'heure de retrouver votre chronique de Bruno David, Le Monde Vivant, consacré à la chouette ou au hibou, on ne sait plus bien.
Décembre 1412. La zizanie est totale au sein de la chrétienté. Depuis 1410, les mitres se bousculent, il y a 3 papes. L'antipape Jean XXIII procède à l'ouverture du Concile de Rome lorsqu'un hibou, ou une chouette selon les témoignages, entré par une fenêtre, le regarde dans les yeux et ulule. Les cardinaux sont stupéfaits. La chrétienté tient la plupart des animaux nocturnes pour des êtres maléfiques. Chouettes, hiboux, chauves-souris, hérissons, blaireaux sont détestés. Vivre la nuit, c'est grand péché. C'est avoir fait un pacte avec le diable, c'est refuser les lumières du Sauveur. Il est loin le temps de l'antiquité gréco-romaine où la chouette, oiseau favori d'Athéna, représentait la sagacité, la tempérance, la sagesse et la connaissance. Chouettes et hiboux sont des oiseaux de mauvais augure et la sorcellerie les suit de près. Le souverain pontife ordonne qu'on exécute l'oiseau. Dans un désordre total, les gardes finissent par le tuer à coups de bâton. Mais alors, chouette ou hibou? D'abord désolé, mais le hibou n'est pas le mal de la chouette. Et puis les chouettes n'ont pas d'oreilles, les hiboux en ont. Encore désolé, cette histoire d'oreille est totalement fausse. Chouettes et hiboux ont des oreilles internes, sans pavillon visible de l'extérieur. Ce que l'on prend pour des oreilles chez les hiboux sont des aigrettes sur le sommet de la tête. Ce sont des toupets de plumes qui se redressent lorsque l'animal est stimulé ou dérangé. Ainsi, le hibou grand-duc, Bubo Bubo, est un strigiforme européen de 75 cm de haut, presque le double de la taille d'une chouette hulotte. Ses aigrettes mesurent 8 cm. Pour compliquer les choses, toutes les espèces de hibou ne sont pas apparentées entre elles, et même certains hiboux sont plus apparentés à des chouettes qu'à d'autres hiboux. Bref, ce terme imprécis ne fait que désigner le fait de porter des aigrettes, et tous sont des strigiformes. Pour en revenir à notre antipape, son secrétaire, témoin oculaire de l'aventure, marque son hésitation en évoquant une chouette ou un hibou. Il n'est pas très certain de la date non plus. Bref, rien n'est sûr. Pas même l'interprétation qu'il faut donner à cette étrange aventure. Les adversaires de l'antipape y voient un signe négatif. Lorsqu'il relate la scène en 1415, Nicolas de Clamange, ancien secrétaire du pape Benoît XIII et donc partisan d'un autre pape ayant son siège en Avignon, considère que Jean XXIII est illégitime et qu'il a bien mérité cet outrage. À l'opposé, vers 1416, l'évêque de Langres prend soin de faire sculpter un hibou sur le mur extérieur de la nouvelle église de Dijon. Très attaché au symbole, il marque ainsi l'épisode du Concile de Rome qui est réinterprété comme une visite du Saint-Esprit. À Dijon, le Saint-Esprit veille sur les habitants. Se chamailler à coups de strigiforme, ce n'est quand même pas banal. Cependant, la confusion subsiste et le hibou dijonnais est depuis des lustres considéré comme une chouette. Il en serait une, la meilleure preuve étant qu'il se trouve rue de la Chouette.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. C'est tous les jours de la semaine dans les petits matins de France Culture. L'écoute en ligne ou le podcast de l'émission sont disponibles sur l'application de Radio France ou en quelques clics à partir de la page franceculture.fr. Mon invité ce matin, Jean-Baptiste Auré, est historien de cinéma et réalisateur. Il vient nous parler d'un de ses cinéastes fétiches, Dario Argento, à l'occasion de la sortie en DVD chez Tamassa du film qu'il consacre à l'œuvre et à la vie du maître du giallo. Dario Argento, soupir dans un corridor lointain. Bonjour Jean-Baptiste Auré.
Bonjour Tofi.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Moi, je suis Dario Argento. Je suis un metteur en scène italien. J'ai fait beaucoup de films de, comme on dit, de genre. Des films fantastiques, horreur, des films thriller, des films psycho. Je me connais pas très bien, alors c'est difficile pour moi de parler de moi-même, parce que moi, je connais pas très bien moi, mon travail et moi-même. Parce que moi, je travaille distinct, alors chaque fois qu'on me dit, vous, Dario Argento, vous êtes comme ça, vous avez fait, moi, je dis, oh, alors, pour vous, parce que moi, je sais pas, je sais rien sur moi. Moi, juste, j'ai fait des films comme pour pression, comme pour un impulse, alors je fais tous ces films alors, et puis les autres vont jouer. Pour moi, c'est seulement un petit travail.
C'était l'extrait de votre film consacré à Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. Le moins que l'on puisse dire, Jean-Baptiste Auré, c'est qu'il exagère un peu, Dario Argento, quand il dit qu'il ne peut pas théoriser sur ses films, lui qui a été très longtemps justement théoricien, comme vous, du cinéma.
Oui, en fait, Dario Argento, il commence comme critique. Il naît dans une famille de cinéma. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui tombe complètement par hasard dans le cinéma un jour.
En film, vend des films. Il est, voilà, il est distributeur.
Son père, en fait, distribue des films italiens à l'étranger.
Sa mère, elle est photographe de plateau.
Voilà, d'origine brésilienne. Donc, le jeune Dario Argento, il passe son temps sur les genoux des divas italiennes de l'époque. Il est sur Gina Lollobrigida. Il est dans cette espèce d'univers-là, si vous voulez.
Mais quand il vous dit, je ne sais pas ce que je fais comme cinéma, il Il est sincère.
Mais je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est à la fois, mais comme souvent les Italiens d'ailleurs, des Italiens de cette génération-là, c'est quelqu'un qui est à la fois très réfléchi, très sophistiqué, très érudit. Moi qui ai passé beaucoup de temps avec Argento, c'est quelqu'un qui peut rentrer dans un musée ou vous faire un cours sur l'histoire du maniérisme italien ou Pontormo pendant une heure. Il n'a pas beaucoup de cinéastes aujourd'hui capables de faire ça. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie culture, et notamment de l'histoire de l'art, et de la littérature et du cinéma. Et en même temps, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup à partir de l'instinct et de ses propres cauchemars. Donc ça fait partie de ces gens qui ne doivent pas trop non plus réfléchir à ce qu'ils font d'une certaine façon. Il y a quelque chose de très instinctif, de très jeté comme ça sur l'écran de cinéma, et en même temps de très érudit et de très réfléchi. C'est un drôle de mélange, Argento, de ce point de vue-là.
Alors comment présenter le cinéma de Dario Argento, Jean-Baptiste Auré, vous l'avez connu, côtoyé. D'ailleurs, votre film, Soupir dans un corridor lointain, se base sur deux interviews réalisées à 20 ans d'intervalle. Donc, ça fait longtemps que vous le fréquentez. Vous avez beaucoup écrit sur lui. Vous avez même écrit un livre de référence sur son cinéma. C'est quoi le cinéma de Dario Argento?
Le cinéma de Dario Argento, c'est comme tous les cinéastes. Moi, je me dis souvent à quoi on mesure l'importance d'un cinéaste. En fait, c'est que si ce cinéaste n'était pas là, il y a des images en fait qui n'existeraient pas. Et Dario Argento, c'est ça, c'est quelqu'un qui va, on pourrait dire, mélanger de façon, à mon avis, assez prodigieuse à la fin des années 60. C'est là qu'il commence à faire des films après son moment, on pourrait dire, critique, au cours duquel d'ailleurs il rencontre des cinéastes qui vont le marquer terriblement, et notamment deux, à mon avis, qui sont un peu les deux mamelles italiennes pour comprendre Argento, qui sont d'un côté Sergio Leone, le goût du genre, le goût du travail sur les rituels, la déformation du temps, etc. Le goût de la culture populaire aussi. Et puis l'autre cinéaste très important pour Argento, c'est Antonioni. Il fera lui-même, vous avez passé en début d'émission, donc le générique qui est la reprise de la musique du film de Profondo Rosso, Les Frissons de l'Angoisse en français.
Ouais, c'est par le groupe Goblin.
Par les Goblins. Et Profondo Rosso est une relecture du blow-up d'Antonioni. Donc vous mettez dans un shaker, si vous voulez, pour faire court, Sergio Leone et Michelangelo Antonioni.
Qui n'ont rien à voir, a priori.
Qui n'ont rien à voir, et en même temps que Argento fait converser. Et la force d'Argento, c'est qu'il est parti dans un moule qui serait le cinéma de genre, grosso modo le cinéma criminel, l'idée d'un personnage. La plupart des films d'Argento sont fondés sur le même principe, hein. Un personnage se retrouve témoin de quelque chose, la plupart du temps c'est un meurtre, une enquête va se dérouler parallèlement évidemment suite au meurtre, et le problème c'est que cette espèce de vision originale qu'il a eue, il a du mal à s'en souvenir. Donc tout le travail du film pour le personnage principal, ça va être de remettre en ordre ou de se souvenir correctement de cette première image qui porte la preuve du meurtre d'une certaine façon. C'est pour ça que c'est un cinéma, on voit bien qu'il y a un cinéma qui est à la fois totalement instinctif, hein, et en même temps totalement théorique.
Et dans ce film que vous consacrez à Dario Argento, que vous avez tourné d'abord à Turin et à Rome, en 2000 et en 2019, je rappelle, vous avez aussi beaucoup écrit sur lui et publié aux éditions Les Cahiers du Cinéma un essai qui fait autorité, Dario Argento, magicien de la peur. Le premier film de Dario Argento, son premier long métrage, L'oiseau au plumage de cristal, est sorti en 1970. C'est-à-dire que là, on est en train de fêter les 50 ans de carrière de Dario Argento. Mais en quoi ce cinéaste a marqué le 7e art, Jean-Baptiste Auré?
Il a marqué d'abord parce qu'il a réalisé une espèce de, on pourrait dire, de mélange absolument rêvé, et là pour le coup profondément italien, entre ce qu'on pourrait appeler la culture haute et la culture basse. C'est-à-dire que quand vous voyez un film d'Argento, c'est à la fois l'opéra de Verdi et des séquences gore. C'est à la fois satanique, qui a une sorte de fumetti. Les fumetti sont des espèces de petites bandes dessinées, un peu des paperbacks italiens, qui racontent l'histoire de héros masqués, un peu violents, avec une pointe de sadisme, d'érotisme, etc. Donc là, on est vraiment du côté du roman de gare. Vous sortez à la gare de Milan ou de Rome, vous achetez votre fumetti, cette espèce de roman photo un peu hardcore. Et puis de l'autre, c'est Verdi, c'est Dante, c'est quelqu'un d'extrêmement lettré. Cette espèce de conversation, si vous voulez, entre la culture populaire et la culture plus savante, à mon avis, fait le charme de Dario Argento, d'une certaine façon. Et c'est quelqu'un, après on pourrait dire aussi, qui a su en fait créer des images de cinéma comme personne ne les avait créées avant lui. Que quand vous regardez Suspiria, par exemple, les 20 premières minutes de Suspiria, c'est quelque chose en 77 qui n'existe. On n'avait jamais vu ça auparavant. Le film s'ouvre par une espèce de déluge formel, maniériste, qui cite des peintres à n'en plus finir, de Escher à Kokoschka, tout ça dans une école de danse abritant des sorcières. Les vapeurs du première minute de Suspiria, c'est unique dans l'histoire du cinéma. Argento l'avait conçu comme une sorte d'opéra rock, et plutôt que de commencer tranquillement un film et d'aller peu à peu vers le climax et puis le dénouement, Argento met tous les potentiomètres au maximum dès le début. D'ailleurs, à l'époque, quand le film est présenté, il est presque vécu comme une sorte d'opéra rock. Et on se dit que si le film continue sur le rythme de son premier quart d'heure, ça va être quelque chose d'absolument incroyable. Donc c'est quelqu'un qui a un sens en plus de l'image, du plan, de la durée, en fait, qui fait subir au film criminel ou au giallo, si vous voulez, ce que Léon a fait avec le western.
Alors, voilà. Ça, vous l'expliquez très bien dans ce film, l'art du détour, de la bifurcation de Dario Argento. On n'a pas encore parlé du giallo, puisque c'est le maître du giallo, donc c'est un genre, ou plutôt un sous-genre, diront certains. Ces films tombent tout comme les romans à couverture jeune. Hein. Giallo, ça veut dire jeune en italien. Dario Argento se réclame. C'est quoi? C'est un genre qui mêle mystère, meurtre, suspense.
Ouais. Alors le giallo. Alors vous dites c'est un sous-genre, un genre. Vous savez, c'est au cinéma, il y a des bons films, il y a des mauvais films. Est-ce que John Ford fait des westerns? Moi, j'en sais rien. Je sais qu'il fait des bons films. Et donc ça, c'est important de le dire parce que Argento est quelqu'un qui a mis du temps à être connu. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est un classique, un maître. Là, la Cinémathèque peut l'honorer, tel festival. Il fait partie des gens qui sont reconnus par l'Académie ou l'institution. Mais il a fallu énormément d'années avant que ça ait eu lieu. La première rétrospective d'Argento à la Cinémathèque française, c'est 99. 30 ans après son premier film. Pendant très longtemps, tous ces cinéastes dits de genre, mais comme Carpenter, comme George Romero, étaient plutôt boudés, voire daubés par la critique académique, hein, par la Pravda, si vous voulez, de la cinéphilie. Donc Argento, c'est quelqu'un qui a mis du temps à être connu, et donc il a eu œuvré à l'intérieur du genre, et c'est ce qui explique en partie qu'il a fallu du temps, parce que le genre, notamment en France, n'a souvent pas été bien considéré, notamment par la critique. Il a eu un retard à l'allumage énorme. Donc le giallo, c'est quoi? C'est à l'origine un genre littéraire, hein,
créé par roman de gare, oui.
Oui, roman de gare, créé dans les années 20 en Italie par les éditions Mondadori, et c'est un mélange tout simplement d'enquête, de meurtre, une pointe de sadisme. Ça se caractérise aussi par de l'érotisme, des meurtres qui sont perpétrés systématiquement à l'arme blanche. Ça, c'est une marque du giallo. Dans le giallo, il n'y a pas de fusil, il n'y a pas de kalachnikov, il n'y a pas de pistolet, mais il y a des rasoirs, il y a des haches, il y a des couteaux. Donc c'est un genre qui est érotique, charnel, parce que pour tuer l'autre, il faut s'approcher de son corps, d'une certaine façon. Hein, on peut pas le tuer à distance. Donc le giallo, c'est un peu tout ça, avec une dimension baroque proprement italienne.
Il était une fois dans l'Ouest, c'est un film très important de Sergio Leone. Il est très important, Jean-Baptiste Toré, puisque vous vous rappelez dans votre film consacré à Dario Argento, que dans ce film, il va y avoir ce qui va marquer le cinéma italien des années 70. C'est d'abord la rencontre de Dario Argento avec son maître, mais il est co-scénariste du film, il n'est pas seul, il y a Bernardo Bertolucci.
Oui, parce que en fait, à l'époque, Sergio Leone, alors Argento en 69, enfin en 68, quand il commence à rencontrer Sergio Leone, il n'est encore que critique. Donc il est critique au Paese Sera, et donc il en profite pour rencontrer des cinéastes qu'il aime, alors que ce soit Antonioni, Elio Petri, Sergio Leone, et il rencontre donc Sergio Leone, et la rencontre avec Sergio Leone se passe plutôt bien. Et Sergio Leone, lorsqu'il doit tourner une fois dans l'Ouest, il faut rappeler qu'à l'époque, c'est son quatrième western, et Leone n'a pas du tout envie de faire un quatrième western. Il considère qu'avec sa première trilogie, Pour une poignée de dollars, Quelques dollars de plus et Le moins beau était le truand, il a fait le tour du genre, il n'a plus envie. Donc il se dit, la seule façon pour moi de faire un western, d'abord c'est de faire une sorte de western somptuaire, qui va enterrer le genre. Une fois dans l'Ouest, c'est le tombeau du western italien. On est en 69. Et il se dit, la meilleure façon pour pas me répéter, c'est que j'aille chercher un peu du sang neuf. Et donc, il voit autour de lui quels sont des jeunes scénaristes ou jeunes réalisateurs de la nouvelle génération qui aura un regard un peu différent de lui. Il les appelle. Et c'est comme ça que Bertolucci, à l'époque, et Argento sont contactés par Sergio Leone pour coécrire, alors non pas le scénario, mais l'histoire du film. Et donc Argento et Bertolucci vont bosser ensemble.
C'est quoi la différence entre l'histoire et les scénarios?
L'histoire, c'est que vous me racontez comme ça une histoire. Un scénario, c'est que vous écrivez toutes les séquences et tous les dialogues. D'une façon, c'est un travail un tout petit peu plus long. Donc c'est les vieux routards vont faire le scénario, mais l'histoire, qui est une sorte de long traitement, si vous voulez, de 15-20 pages, est faite par ces deux jeunes qui sont Bertolucci et Dario Argento, qui sont deux cinéastes assez proches d'ailleurs, qui sont de la même génération, qui sont intéressés par les mêmes choses, qui ont fait aussi deux cinémas assez maniéristes d'une certaine façon. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'en ai évidemment souvent parlé avec lui, et quand on voit l'Ouest de Sergio aujourd'hui, on se dit, mais qu'a écrit Argento?
Exactement. Hein, et votre film, Jean-Baptiste Torré, Dario Argento soupire dans un corridor lointain, il nous explique la patte de Dario Argento, et notamment dans ces scènes où les insectes sont présents sur les visages des protagonistes. Et ça, c'est vrai que ça nous a marqué en voyant le film de Sergio Leone.
En fait, on sent rétrospectivement, quand on revoit le film de Leone et qu'on a vu la carrière d'Argento se dérouler ensuite, on identifie assez bien ce qui touche Argento, ce qu'il a intéressé, ce qu'il a pu écrire. Notamment la séquence du début, la question de la goutte d'eau, la question de la mouche, etc. Ça, c'est typique de Dario Argento, parce que les insectes sont
très présents dans son cinéma.
Très très présents, parce que c'est un cinéaste qui s'intéresse aussi à tous les points de vue. Ça, c'est vraiment l'héritage baroque de la peinture italienne. Dans la peinture, la peinture baroque, son idée, c'était que il faut peindre un corps sous toutes ses formes, de toutes ses facettes. Hein, le fantasme de la totalité. Chez Argento, c'est la même chose. Dans un film d'Argento, une cuillère, une luciole, un vent, un coin de table, un humain ont le même droit au point de vue et au cadre que les autres personnages du film, ce qui en fait d'ailleurs un cinéma assez particulier. Et donc on voit bien que au début de Une fois dans l'Ouest, on voit ce qu'a pu écrire Dario Argento. Argento, c'est quelqu'un qui a une capacité en fait à s'engouffrer à l'intérieur d'un décor, d'une séquence, et l'explorer jusqu'au bout. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire que la plupart des scénaristes écriraient, par exemple, le personnage longe un couloir, voilà, d'un point A à point B. N'importe qui filmerait ça, ça prendrait 20 secondes, voilà, qu'un personnage longe d'un couloir d'un point A à point B. Chez Argento, il y a une scène d'invagination, ce couloir possède une scène de double fond, de double entrée, un autre espace que le personnage va explorer, ce qui fait que très souvent dans les films d'Argento, le scénario, au sens un peu classique du terme, se met en veille. Pour avoir un immense moment de cinéma mental pendant un quart d'heure. Le début d'Inferno, vous avez vu Inferno tout fic, vous vous souvenez de ce début, ce personnage qui va dans la cave, explorer la cave. N'importe quel cinéaste classique aurait torché la séquence en deux minutes. Argento, il en fait un moment de cinéma phénoménal d'un quart d'heure.
Alors, ce qui est intéressant aussi dans votre film, Jean-Baptiste Torré, c'est que vous n'êtes pas toujours d'accord avec Dario Argento. Parce que si on reprenait donc cette génération, Bertolucci et Dario Argento, qui ont collaboré avec le grand maître Sergio Leone, Bertolucci ensuite va faire un cinéma très ancré sur la réalité et l'histoire de son pays. Dario Argento vous dit à vous, Jean-Baptiste Torré, que lui, ça ne l'intéressait pas à l'actualité. Et vous n'êtes pas d'accord avec lui.
Non.
Vous n'êtes pas d'accord. Vous rappelez que si son grand film s'appelle Profondo Rosso, en pleine décennie d'affrontement, des années de plomb en Italie, ce n'est pas un hasard. Et là, vous n'êtes pas d'accord.
Oui, je ne suis pas d'accord. Mais en fait, quand il me dit ça, je pense qu'il me dit mes films ne sont pas politiques. Mais les films ne sont pas historiques. Bon, mais il dit dans la seconde d'après, mais si on cherche un petit peu, peut-être, etc. Moi, je ne crois pas qu'un cinéaste italien comme Dario Argento, qui a été critique, lettré, membre du Parti communiste à une époque, vivant cette décennie phénoménale que sont les années de plomb dans le cinéma italien, n'ait pas été touché par ça. Tous les grands cinéastes italiens, de Dino Risi à Petri, à Pasolini, à Bertolucci, à Mario Bava, tous ont été trempés à l'intérieur des années de plomb. Profondo Rosso, évidemment, c'est les Brigate Rosso, c'est aussi les Brigades Rouges. Et le giallo, pour moi, en tout cas c'est mon interprétation, est un genre, on pourrait dire, caractéristique des années de plomb. La paranoïa, le soupçon, la peur d'être tué à tout moment, la desquamation de la bourgeoisie. Quand vous prenez le giallo, c'est un genre qui fait un constat éminemment politique de l'Italie de l'époque. Donc Argento a beau me dire, et je sais qu'il le croit à moitié, que ces films, non, sont des films existentiels, qui touchent la personne humaine, le mental, les cauchemars, des choses plus universelles, c'est vrai. Mais à côté de ça, Argento est un cinéaste de son temps. De toute façon, il n'y a pas de grands cinéastes qui ne sont pas des cinéastes de leur temps. Alors, et le temps d'Argento, ce sont les années de plomb en Italie. 69, l'attentat de la Piazza Fontana, début des années de plomb, 80, attentat de la gare de Bologne. Donc, tous ces films à lui sont des films qui sont traversés par l'inquiétude de l'Italie, par la peur des attentats de l'époque, par la fin de la bourgeoisie. Ce sont des choses très très présentes dans ce cinéma.
Pour terminer, Jean-Baptiste Torré, quels sont les films qui peuvent nous introduire, ou introduire ceux qui ne connaissent pas encore le cinéma, le style de Dario Argento, pour connaître mieux ce réalisateur?
Il faut être très vigilant là-dessus, parce que moi j'ai fait plusieurs fois l'expérience et je sais qu'une mauvaise entrée ou une entrée ratée dans le cinéma d'Argento en fait fait manquer l'œuvre. Moi je pense qu'on peut commencer par Profondo Rosso, qui est donc son quatrième film, qui appartient au moment
75,
du giallo, voilà, 75, parce qu'il y a plusieurs périodes dans le cinéma d'Argento. Une première période plutôt tournée du côté du giallo, de l'enquête, et puis une seconde période qui s'ouvre avec Suspiria en 77, plus tournée vers les phénomènes paranormaux, le fantastique ou autre. Et Profondo Rosso, c'est un film qui est vraiment à l'interface, on pourrait dire, des deux genres. Et c'est surtout tellement, du point de vue de la mise en scène et de l'expérience esthétique de cinéma, c'est surtout tellement incroyable que moi je pense que rentrer dans Profondo Rosso, c'est une bonne façon d'entrer dans l'univers d'Argento. Et puis peut-être pour les adolescents, ceux qui ont plutôt 17, 18 ans, je rentrerai peut-être par Phenomena, film pour lequel j'ai beaucoup d'affection, qui tourne en 84 avec Jennifer Connelly, d'ailleurs actrice qui pique à Sergio Leone, qui venait de l'employer dans une fond d'Amérique en la même année. Donc Phenomena est peut-être un film pour les cinéphiles qui ont des enfants adolescents, une bonne façon d'entrer dans ces films.
Et aujourd'hui, Dario Argento alors?
Bah aujourd'hui, Dario Argento, il est comme tous, il a 80 ans. Dario Argento, ça fait un bout de temps que l'industrie du cinéma italien, enfin, ne s'intéresse plus à lui. La carrière d'Argento, on pourrait dire qu'elle se termine artistiquement parlant au début des années 2000 avec un film qui s'appelle Nono Sono. J'ai pas sommeil, mais bon, traduit en français par Le sang des innocents. Et depuis, bah, il tente de produire, mais voilà, c'est devenu compliqué pour lui, mais sa carrière est faite. C'est quelqu'un qui a fait.
Compliqué, pourquoi? Parce qu'il a raté le passage à la 3D. Son Dracula n'est pas
un
chef-d'œuvre, on peut le dire.
Mais parce que le cinéma italien est par terre, c'est-à-dire que le cinéma italien au début des années 80, Berlusconi reprend en main la télévision italienne. Vous savez, le cinéma italien, ça a été le plus grand cinéma du monde dans les années 60-70 quasiment, et qui en 2-3 ans s'est effondré littéralement. Argento a réussi à survivre parce que le genre, parce qu'il a pu trouver des coproductions parfois américaines dans les années 80, mais dès les années 90, c'est devenu très compliqué pour lui.
Et voilà, une autre manière de connaître un peu mieux Dario Argento, son cinéma, sa personnalité, c'est bien sûr votre film, Jean-Baptiste Torré, Dario Argento, Soupir dans un corridor lointain. Ça vient de sortir en DVD chez Tamassa. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Jean Frédérics. Passez une bonne journée, on se retrouve demain à la même heure.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Est-ce qu'il y a un secret qui lie ces deux hommes ?
Cahuzac, Lux Lix, Fillon, Benalla.
Mécanique du journalisme, la nouvelle collection de podcasts originaux de France Culture. Dans les coulisses des grands scoops de notre époque, racontés par ceux qui les ont révélés. Un ministre du budget, un compte bancaire à l'étranger non déclaré, enquête, déni, trahison, démission. Mécanique du journalisme, l'affaire Cahuzac par les journalistes Fabrice Arfi et Élise Carlin. Un podcast original de France Culture sur l'appli Radio France.
Cette semaine, cap sur le monde des mafias.
Sur France Culture, Florian Delorme.
De la Ndrangheta en Calabre, au Yakuza au Japon, en passant par les narcos mexicains ou les oligarques russes, nombre de pays sont confrontés à des organisations criminelles. Et tous tentent tant bien que mal d'en venir à bout. Avec quel résultat ? Comment comprendre leur incroyable résistance ? Et comment sont-elles parvenues à s'imposer, parfois jusqu'au cœur même de l'État ?
Mafia, des sociétés contre l'État, dans Culture Monde du mardi au jeudi sur France Culture à 11h et sur l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Et nous débuterons ce journal aux États-Unis, où l'on attend toujours qu'un camp républicain ou démocrate sorte du lot pour prendre la présidence. Pour le moment, Donald Trump et Joe Biden sont au coude à coude. Statu quo, pas de grosses surprises. L'état de Pennsylvanie pourrait être décisif. Nous irons sur place dans un instant. À Vienne, l'enquête se poursuit. 16 personnes sont toujours entendues 48 heures après l'attaque terroriste qui a fait 4 morts dans le centre de la capitale autrichienne. Le groupe État islamique revendique cet attentat. Et puis les colères se superposent en France contre la gestion de l'épidémie de Covid-19. Nous entendrons dans cette édition celle des évêques de France qui souhaitent que les messes reprennent malgré le confinement. 145 grands électeurs pour Donald Trump, 213 pour Joe Biden. Il en faut 270 pour remporter la mise et le bureau ovale de la Maison-Blanche. Autant vous dire que c'est encore très serré ce matin. Les résultats définitifs de la présidentielle aux États-Unis se font attendre, mais une chose est déjà sûre, il n'y a pas de vague bleue démocrate comme annonçaient les sondages. Pas de surprise pour le moment, on reste grosso modo sur la carte de 2016. Certains démocrates veulent rester optimistes quant aux chances de Joe Biden, mais comme Joe rencontré à Washington cette nuit, il n'oublie pas la mauvaise surprise d'il y a 4 ans quand Donald Trump s'était imposé contre toute attente.
Je suis optimiste mais prudent, parce qu'en 2016, on était tous optimistes et on a vu ce qu'il s'est passé. Ça se présente mieux cette fois-ci, les résultats semblent plus assurés, mais on n'est toujours pas sûr. Donc je reste optimiste, mais je retiens mon souffle.
Le démocrate Joe Biden qui peine donc à remporter certains États, des États qui vont s'avérer essentiels dans les heures à venir. Les États du Nord, Wisconsin, Michigan et Pennsylvanie. La Pennsylvanie, où nous retrouverons d'ailleurs Maxime Tellier. Bonjour Maxime.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
Vous avez passé la soirée avec des républicains côté Trump donc.
Oui, la soirée qui se termine ici, il est minuit et demi en Pennsylvanie. Je suis dans un grand bar qui a été investi par des républicains, donc dans le nord-est de la Pennsylvanie. Une watch party, comme on dit ici, où Fox News était branché, une soirée télé en fait. Hein. Des républicains qui étaient plutôt confiants en début de soirée, mais prudents. Et puis les applaudissements ont commencé à résonner, les sourires aussi à mesure qu'on apprenait les victoires de Trump en Floride et dans la plupart des États qu'il avait gagné ailleurs et déjà en 2016. Trump, il nous comprend, il nous défend, il fait ce qu'il dit, même si le personnage est particulier. C'est ce que j'ai pu entendre ce soir. Et puis la vague bleue n'a pas eu lieu et ça, c'est une victoire, Clara.
Et que peut-on dire, Maxime, plus globalement sur la situation dans l'État ce matin ?
Alors, ce matin, donc cette nuit ici, minuit et demi en Pennsylvanie, 60% des... Oui, voilà. 60% des résultats seulement ont été décomptés. Too early to call, disent les chaînes de télé ici, hein, trop tôt pour se prononcer. Trump se défend bien, hein, ça quand même, il faut le dire. Il est en avance, 56-42, mais vous le savez, il y a beaucoup de votes anticipés qui ont été postés. 2,5 millions, c'est 8 fois plus qu'en 2016. Et traditionnellement, ce mode de scrutin est plutôt démocrate. La ville de Philadelphie annonce aussi qu'elle a arrêté les décomptes. Et la ville est plutôt démocrate aussi, elle la reprendra à 10h30 demain. Donc 16h30, heure française. Les bulletins qui arrivent par la poste peuvent être comptés jusqu'à vendredi. Donc ça risque de durer en Pennsylvanie.
Merci beaucoup Maxime Tellier. On suivra évidemment avec vous dans les jours qui viennent les résultats dans cet État. Je vous le rappelle, pour le moment, Joe Biden a 213 grands électeurs, 145 pour Donald Trump, mais rien n'est joué. J'ajoute parallèlement que pour les élections au Sénat outre-Atlantique, actuellement dominé par les Républicains, le Sénat, eh bien les démocrates reprennent un siège dans le Colorado quand les Républicains en reprennent un dans l'Alabama, statu quo donc. Les démocrates garderaient par ailleurs le contrôle de la Chambre des représentants. Pour suivre les résultats au fur et à mesure, il y a bien sûr notre antenne ce matin et nos plateformes sur les réseaux sociaux, ainsi que le site de France Culture avec déjà une projection. S'il y a une contestation des résultats, quel recours possible? C'est un article à retrouver en ligne sur franceculture.fr. Le chancelier autrichien réclame une réponse européenne à l'islam politique. Voilà la déclaration de Sébastien Kurz au lendemain de l'attentat à Vienne qui a fait 4 morts et une vingtaine de blessés dans la capitale. L'État islamique a revendiqué hier cette attaque. 16 personnes au total sont actuellement entendues par les enquêteurs qui essaient toujours de retracer le parcours du suspect. Un jeune djihadiste âgé de 20 ans, il était originaire de Macédoine, déjà connu des services de renseignement. Il a été abattu hier après l'attaque. L'Autriche débute 3 jours de deuil national. Parallèlement, sachez que l'Europe continue de se barricader contre l'épidémie de Covid-19. Les contaminations progressent rapidement. Un sommet européen de crise est attendu dans 15 jours. En France, il est toujours question de reconfinement. Pas de couvre-feu en Ile-de-France comme évoqué un temps hier par le porte-parole du gouvernement. Ce mercredi, un conseil de défense est prévu alors que l'opposition a réussi à réduire la durée de l'état d'urgence sanitaire hier à l'Assemblée nationale. Elle a choisi de le prolonger jusqu'à la mi-décembre et non jusqu'à la mi-février comme le souhaitait l'exécutif. Sachez que dans le même temps, nous notons ce matin un recours qui est déposé par la Conférence des évêques de France devant le Conseil d'État contre une annonce du gouvernement. La Conférence des évêques de France proteste contre l'interdiction de célébrer la messe après les fêtes de la Toussaint, Antoine Marette.
C'est l'article 47 du décret sur l'état d'urgence qui est contesté par la hiérarchie catholique. Cet article précise que les établissements de culte peuvent rester ouverts, mais tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires. Le père Hugues de Voilemont, secrétaire général de la Conférence des évêques de France.
Le culte, pour les catholiques comme pour les autres religions, est important et nécessaire aussi dans ce contexte de pandémie, parce que, bien sûr, le virus circule, mais il y a aussi un virus de la peur, un virus de l'appréhension qui circule aussi, qui est très important. Et nous disons que la santé psychique, le besoin de se retrouver est aussi très important et l'Église peut offrir des ressources pour que les citoyens traversent cette épreuve d'une manière personnelle comme d'une manière collective.
En mai dernier, le Conseil d'État avait déjà imposé au gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. Il n'avait pas alors été saisi par la Conférence des évêques de France, mais par quelques associations et notamment le très groupusculaire Parti chrétien démocrate. Son président, Jean-Frédéric Poisson, qui dépose à nouveau un recours, espère bien réitérer la surprise du printemps dernier.
On voit bien que dans beaucoup d'aspects de la gestion de cette crise, nous touchons les limites de compétences des gens qui nous gouvernent. Ils n'ont toujours pas compris, ces gens qui nous gouvernent, que la religion, la spiritualité en général, peuvent être considérées comme des variables d'ajustement de la vie sociale. L'assistance au culte auquel on est attaché, comme d'ailleurs l'accès à la culture, à la spiritualité, sont des choses absolument essentielles à l'équilibre de la vie sociale.
Le Conseil d'État va donc devoir à nouveau s'interroger sur la proportionnalité de cette interdiction. Sa décision devrait tomber dans les prochains jours.
Antoine Marette, je précise que le bilan s'alourdit en France avec 426 morts supplémentaires ces dernières 24 heures à l'hôpital, 428 en EHPAD ces derniers jours. Près des deux tiers des lits de réanimation dans les hôpitaux sont occupés par des malades du Covid-19 actuellement. Nous en venons maintenant à cette OPA de Veolia sur Suez. Elle se fera quoi qu'il arrive. Déclaration hier du PDG de Veolia qui est bien décidé à accélérer le calendrier, quitte à ce que les actionnaires de Suez modifient la composition du conseil d'administration. Écoutez le PDG de Veolia, Antoine Frérot, lors du point presse hier.
Maintenant que le train est lancé, il est nécessaire pour les salariés de nos deux groupes qui ne vont pas vivre éternellement dans l'incertitude que le projet avance. Puisque le conseil de Suez ne veut même pas décrocher son téléphone pour entendre mon projet, je vais le présenter directement aux actionnaires de Suez. Cela signifie, de manière simple, que l'OPA se fera quoi qu'il arrive, et au plus tard, après la prochaine Assemblée Générale. Et le chemin est donc clair.
La réponse des dirigeants de Suez n'a pas tardé car ces derniers étaient auditionnés quelques heures plus tard par le Sénat. Bertrand Camus est le directeur général du groupe.
À l'heure où nous voulons réindustrialiser la France, pourquoi se priver des numéro 1 et numéro 2 mondiaux dans un secteur porteur et vital pour l'avenir? Notre pays abrite deux champions avec deux trajectoires industrielles différentes pour conquérir des marchés mondiaux. Ce projet revient à transformer deux champions mondiaux en un seul groupe endetté et affaibli. Le projet de notre concurrent est simple, voire simpliste, démanteler Suez et affaiblir la concurrence.
Des propos choisis pour France Culture par Anne-Laure Jumet. Selon nos informations du côté de Bercy, on considère désormais que l'offre de Veolia est hostile. Le temps sera sec ce mardi avec un soleil dominant sur la moitié nord-ouest, quelques bandes brouillard sur le centre, nuages bas sur les Pyrénées. Ce matin, il fait 3 petits degrés à Rennes, 6 à Lille et Paris, 8 degrés à Dijon, 17 à Nice. Je vous rappelle le fil rouge de cette matinée, la présidentielle aux États-Unis. Pour le moment, c'est très serré entre le président sortant républicain Donald Trump et son concurrent démocrate Joe Biden. Pas de raz-de-marée démocrate. On attend toujours les résultats en Pennsylvanie, dans le Michigan et le Wisconsin. Prochain journal à 7h sur France Culture. Car pour l'instant, il est 6h40 et c'est l'heure du journal des idées avec Jacques Meunier. Bonjour Jacques.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Dans l'attente des résultats aux États-Unis, et quel que soit le résultat d'ailleurs, on peut déjà dire Jacques que le vainqueur héritera d'un pays profondément divisé.
Oui, Clara, et sans l'état de grâce habituellement réservé aux vainqueurs, ajoute Julien Bisson dans l'édito de l'hebdomadaire Le 1. Signe des temps, ajoute-t-il, depuis le mois de mars, les Américains ont déjà acheté plus de 15 millions d'armes à feu, un bond de 91% par rapport à l'an passé, que ce soit pour compléter sa collection dans la perspective d'un contrôle accru en cas de victoire démocrate, ou pour se défendre dans un climat de guerre civile. Mettez ensemble beaucoup d'armes et beaucoup de gens en colère et vous êtes assurés de nourrir une situation explosive, s'inquiète Russell Banks, qui souligne également la diversité culturelle, ethnique, linguistique du pays, mais aussi sa fragilité. C'est un pays qui peut être vite déchiré si on s'y emploie, et Trump s'y est employé mieux que personne. L'écrivain rappelle que la démographie américaine évolue, les Blancs ne formeront bientôt plus la majorité de la population, et cela suscite le désespoir chez ceux qui n'ont jamais eu d'autres privilèges que leur domination raciale. Une démographie qui lui donne pourtant quelques raisons d'espérer, et notamment l'énergie de la jeune génération face aux questions environnementales et aux changements climatiques. Célia Belin, qui a publié en coédition Fayard Fondation Jean Jaurès des démocrates en Amérique, s'étonne de l'âge des deux candidats, alors que du côté démocrate, une vingtaine d'impétrants étaient en lice, dont 6 femmes, des noirs, des latinos, des asiatiques, avec une grande diversité de parcours et de positionnement, souvent progressistes. Selon la chercheuse, Joe Biden s'est imposé face à Trump comme une valeur refuge, presque comme une coquille vide à l'intérieur de laquelle chacun pouvait verser ses propres aspirations. Et elle fait le pari que, s'il est élu, ces jeunes progressistes demanderont à être représentés au sein de son cabinet à des postes clés comme le Trésor ou l'environnement, et qu'ils s'emploieront à infléchir sa politique en adoptant certaines mesures du Green New Deal axées sur la justice sociale et environnementale. Sur le site AOC, Romain Huret s'attarde sur le bilan du président sortant et s'étonne qu'il ait autant négligé la partie de son électorat qui lui a permis d'être élu. Il a remis en cause l'Obamacare et promis de l'abroger s'il était réélu, une loi qui a pourtant apporté une couverture santé pour les millions d'Américains qui en manquaient, et parmi eux de nombreux ouvriers. Il a accéléré le déclin de la démocratie industrielle instituée depuis les années 1930, réduisant encore les possibilités de défense et de représentation syndicale dans les entreprises. Même son bilan économique et en termes d'emploi, jusqu'à l'hiver dernier, est remis en cause par de nombreux économistes, car il n'aura sans doute rien de durable. Sa politique ressemble à ces reprises d'entreprises obtenues à renfort d'exonération fiscale, mais dont chacun sait qu'elles ne feront que retarder l'échéance. Et sur le plan de l'énergie, elle est un cas d'école de cette politique par à-coup. Rouvrir les mines de charbon était une promesse illusoire et coûteuse d'un point de vue environnemental, de même que le fracking, la fracturation hydraulique des sols pour en extraire des hydrocarbures, fracking généralisé par des compagnies qui passent d'une zone à l'autre en laissant dans le paysage les traces physiques de cette politique par à-coup. Quant à la géopolitique et l'ordre international, Olivier Zajec estime dans Le Monde diplomatique que le changement ou la permanence de locataires de la Maison-Blanche ne devrait pas les bouleverser, les choix diplomatiques des États-Unis ayant cessé de déterminer tous les équilibres stratégiques. L'ambition du candidat Biden de renouer avec la mission de guider le monde démocratique, comme l'exprimait le président Obama, non seulement par l'exemple de notre puissance, mais aussi par la puissance de notre exemple, n'a plus cours dans un monde multipolaire. En cela, Trump n'aura fait qu'accentuer le mouvement. En réduisant les relations internationales à l'affrontement avec la Chine, il a fait courir le risque du piège de Thucydide à son pays, la puissance dominante qui entre en guerre avec la puissance émergente, poussée par la peur que suscite son surgissement. Le politiste déplore en l'occurrence une occasion ratée pour l'Europe, car certains États membres jugent plus avantageuse la dépendance vis-à-vis de l'OTAN que l'autonomie stratégique européenne et la restauration de bonnes relations avec les États-Unis dans l'hypothèse d'une victoire de Biden ne ferait que les encourager à renouer avec cette subordination stratégique. (6h45) sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon. Bonjour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, vous faites le point sur les poursuites contre Julian Assange.
Oui, laissons encore aux scrutateurs des dépouillements le soin de comptabiliser dans tous les États-Unis les bulletins de vote remportés par Donald Trump et Joe Biden. France Culture est à pied d'œuvre pour vous faire vivre cette matinée électorale dans les journaux et les programmes. Dans les enjeux internationaux, on fait un petit pas de côté pour évoquer l'un des dossiers les plus sensibles de la politique étrangère américaine, la bête noire de tous les présidents américains et quel que sera le prochain. D'ailleurs, Julian Assange, fondateur de Wikileaks, a été jugé très récemment à Londres. Un procès d'extradition car la justice américaine réclame toujours de pouvoir le juger elle-même. Il est désormais visé par 18 charges, dont violation de l'espionnage acte passible de 175 années de prison. Le procès a été très peu suivi par la presse française. Mediapart est le seul média à avoir couvert les 4 semaines d'audience. Bonjour Jérôme Ourdeau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc journaliste à Mediapart et c'est vous qui avez couvert ce procès ainsi qu'Antoine Perrault. D'abord un mot sur la forme très fastidieuse de ce procès qui explique peut-être d'ailleurs que la presse française ne s'y soit pas attardée. Tout ou presque c'est fait par visioconférence.
Oui. Déjà pour des raisons de place, car c'est une salle très petite et c'est, pour toutes les audiences d'Assange, il y a eu un problème de place et d'accès, que ça soit aux journalistes et aux observateurs, ce qui a été dénoncé par beaucoup d'associations, notamment RSF. Et là, en plus, avec le cadre d'épidémie, c'était quasiment entièrement en visioconférence, notamment les audiences des témoins. Et c'était très fastidieux. C'était une très très longue réunion Zoom, en gros, avec beaucoup d'incidents d'audience, des témoins qu'on entendait très mal, avec des écho, et tout ça sur une forme un peu, bon j'avoue que je connais pas trop le droit britannique, les procédures britanniques, mais sous une forme assez peu habituelle par rapport au droit français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de débat sur le fond. C'était un enchaînement de témoignages, sous une forme très ritualisée, avec le témoin qui présentait en visioconférence, qui était interrogé par la défense pendant une demi-heure, un contre-interrogatoire d'une heure et demie parfois deux, trois heures par le procureur, et enfin et à la fin encore un réinterrogatoire par la défense. Et tout ça pendant 4 semaines, donc il y avait un côté très long, très fastidieux, très haché aussi avec les pauses d'audience.
Avec un côté parfois même à la limite du grand guignol quand à la suite d'un cas suspect suspect de Covid, le procureur qui représentait le gouvernement américain, s'est exprimé donc en visioconférence depuis son appartement en disant qu'il avait oublié le câble de chargement de son ordinateur, qu'il n'avait plus que 31 minutes de batterie. Enfin, c'est vrai qu'il y avait un côté parfois très étrange à ce procès que vous avez décrit dans vos articles. L'un des enjeux des débats, c'était de savoir si Julian Assange peut prétendre au statut de journaliste qui lui permettrait de bénéficier du droit à la protection du premier amendement de la Constitution américaine. Qu'est-ce qui fait dire à la partie civile, donc la justice américaine, que ce n'est pas le cas, qu'il ne peut pas être considéré comme tel, comme journaliste ?
L'acte d'accusation qui avait été rendu quelques jours avant le début des audiences est vraiment taillé sur mesure pour montrer que Julian Assange n'est pas un journaliste. C'est-à-dire qu'ils attaquent très peu de publications de documents en elles-mêmes. C'est-à-dire que le procureur James Lewis est beaucoup revenu là-dessus pendant les audiences en disant que, en gros, il vise qu'un petit nombre de documents dans lequel, par erreur, les noms de sources américaines n'avaient pas été censurés. Et donc ils poursuivent pour mise en danger d'autrui. Et ça concerne que très peu de documents. Pour le reste, ils attaquent la manière dont Julian Assange a récupéré les documents, en essayant de montrer que WikiLeaks est en fait une organisation de hackers ayant collaboré avec des hackers pour récupérer illégalement des documents. Et vraiment, ils insistent, et l'acte d'accusation est vraiment calibré sur la sollicitation des sources, sur la manière dont WikiLeaks a récupéré les documents et la manière dont Julian Assange aurait même aidé certaines sources à pirater des documents.
Dont Chelsea Manning, à qui Julian Assange a dit, selon mon expérience, des yeux curieux ne sont jamais secs. Donc en l'incitant à aller toujours chercher de nouveaux documents. Mais un journaliste néo-zélandais qui a été appelé comme témoin est venu rappeler que tous les journalistes qui font de l'enquête travaillent comme ça. En fait.
Exactement. Alors déjà, il faut rappeler que donc il y a cette phrase là qu'a dit Julian Assange. Il y a aussi le fait que Julian Assange aurait, enfin, a proposé à Chelsea Manning de l'aider à casser un mot de passe pour accéder à des nouveaux documents, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Et face à ça, il y a quelques journalistes qui sont intervenus pour dire. Concrètement, c'est une version idéalisée un peu du journalisme qu'a l'administration américaine, parce que concrètement, quand on est face à une source, il arrive de lui demander, écoute, est-ce que tu n'en aurais pas un peu plus, ou est-ce que tu pourrais pas m'avoir ce document-là ? Et effectivement, parfois, l'aider à organiser la masse de documents, c'est aussi un des aspects qui reproche l'accusation.
Voilà pour
et donc oui, on a eu quelques journalistes qui ont réussi à remettre un peu les choses à plat et à rappeler un peu la réalité face à cette vision un peu fantasmée de l'accusation. Quoi.
Et à dire que si ces charges étaient confirmées, ça criminaliserait tout journaliste recevant des documents. Alors le représentant de la justice américaine n'a pas cessé de dire, vous l'avez dit, que Julian Assange n'était pas poursuivi pour avoir publié des informations confidentielles, mais pour avoir mis en ligne des documents où figuraient les noms de soldats, d'informateurs de l'armée américaine, notamment irakiens, et donc d'avoir mis leur vie en danger. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si la vie de certains informateurs a été mise en danger par des documents de Julian Assange ? Et est-ce que la justice américaine a pu prouver que Julian Assange avait donné certains de ces noms ?
Non. Donc, sur la mise en danger, c'était déjà quelque chose qui était au centre du procès de Chelsea Manning. Et face à ça, l'accusation n'a jamais réussi à citer un cas de mise en danger. En tout cas, il cite des cas de mise en danger, mais de conséquences qu'il y aurait eu, il y en a eu a priori aucune. En tout cas, l'accusation n'arrive pas à en fournir. Sur la publication des documents, je vais essayer de faire vite parce que c'est une histoire un peu complexe. En fait, les documents, il y a eu quelques documents non censurés qui ont été publiés à la suite d'un imbroglio qui serait, c'est pas très clair, lié à des dissensions au sein du groupe qui travaillait sur les documents.
Oui, c'est vrai que ça c'est un peu compliqué, mais en revanche ce que vous racontez de très simple, c'est que l'équipe de Julian Assange a passé des heures à effacer les noms des informateurs.
Voilà, et beaucoup de journalistes qui, ayant travaillé sur les documents de Chelsea Manning, ont rappelé ont raconté des séances d'heures de gens travaillant sur les documents pour en censurer le plus possible. Il y a eu des coups de fil, on le sait, passés entre Julian Assange, enfin en tout cas l'équipe de WikiLeaks, et le département d'État américain pour leur signaler et leur demander quels documents fallait censurer. Et tout ça a été rappelé très longuement pendant les audiences, oui.
Et le témoignage très intéressant que vous mentionnez, c'est celui de Daniel Ellsberg. C'est lui qui fut à l'origine en 71 des célèbres Pentagon Papers, parus à l'époque dans le New York Times pour dénoncer les exactions de l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam. Et lui, il a dit, moi aussi, les documents que j'ai dévoilés, ils contenaient des milliers de noms. À l'époque aussi, j'ai été accusé d'être un traître. Et aujourd'hui, les États-Unis me décrivent comme le bon Ellsberg et me comparent au méchant Assange. Donc voilà, les témoins se sont succédés pour dire pourquoi, d'après eux, Assange n'avait rien fait d'illégal. Surtout, qui sont parmi eux les témoins, ceux pour qui les révélations de Wikileaks ont été fondamentales pour leur travail? Qui de chercheurs, qui d'avocats de victimes civiles de frappe américaine?
Moi, j'ai été assez marqué par le témoignage de John Goetz, qui est un journaliste allemand, qui a réussi, grâce aux documents de Wikileaks, à retracer l'histoire d'un ressortissant allemand, donc j'ai oublié le nom, qui avait été enlevé par erreur en Macédoine et qui s'était retrouvé dans les prisons secrètes de la CIA. Tout ça parce qu'il était un homonyme d'un terroriste. Et donc l'histoire a fait pas mal de bruit en Allemagne. Et grâce aux documents de Wikileaks, il a pu retracer l'histoire de cet homme-là et alimenter son dossier. Et ce qui a fait un mini incident diplomatique entre l'Allemagne et les États-Unis. Il y a aussi l'universitaire Monsieur John Sloboda, qui était le responsable du projet Iraqi Body Count, qui a rappelé que sans les câbles, il y aurait plein de morts civiles qu'on ne connaîtrait même pas. Et aussi il y a eu un témoignage très fort du chef du bureau de Reuters à Bagdad, qui était en poste au moment où il y a eu la fusillade par l'hélicoptère qui a donné lieu à la vidéo Iraqi Collateral Murder, où il raconte la journée où deux de ses hommes sont morts, tués par deux de ses journalistes sont morts, tués par cet hélicoptère américain. Et ça a été des moments assez forts.
Et il y a peut-être eu une surprise dans le procès, en tout cas un témoignage inattendu de l'une des avocates de Julian Assange, Jennifer Robinson, qui a raconté avoir assisté en août 2017 à une réunion dans l'ambassade équatorienne de Londres et où le nom de Donald Trump est revenu à plusieurs reprises.
Oui, alors c'est un épisode qui a été confirmé d'ailleurs par de l'autre côté, c'est-à-dire qu'au mois de je me souviens plus la date. Donc
il y a c'était Donald, en août 2017.
Oui, c'est ça. Donc un parlementaire républicain, Dana Rohrabacher, qui s'est rendu dans l'ambassade équatorienne à Londres et qui a proposé un deal tout simplement à Julian Assange, au terme duquel donc Julian Assange serait gracié par Donald Trump s'il acceptait d'affirmer publiquement que la Russie n'avait rien à voir dans la publication des mails du Parti démocrate.
Ah, Jérôme Mourdeau, on vous a perdu. Alors, on vous a perdu, donc je peux peut-être raconter en quelques mots ce qui s'est passé. Donc, cette avocate Julian Assange a assisté à l'ambassade équatorienne de Londres à une réunion entre Julian Assange, cet élu américain républicain et un journaliste proche aussi de Trump. Et en fait, l'élu américain républicain a dit à Julian Assange, en échange, vous expliquez que les Russes n'ont rien eu à faire pendant la campagne électorale de Donald Trump. Vous dites aussi que le camp républicain n'a rien à voir dans la divulgation des mails d'Hillary Clinton et du camp démocrate, et puis on vous laisse un petit peu tranquille. Voilà, on arrive à la fin de toute façon de cet entretien. Est-ce que vous vouliez nous dire, Jérôme Mourdeau, également, je suis désolée qu'on vous... Ah ben vous êtes encore là, peut-être juste pour conclure, vous avez 10 secondes pour conclure. Si plusieurs témoins ont indiqué que Assange était particulièrement dans le viseur de Donald Trump, est-ce que Joe Biden pourrait se montrer plus clément si jamais il était élu?
Personnellement, moi, j'en doute parce que Julian Assange et Wikileaks sont particulièrement détestés par les démocrates, en tout cas par beaucoup de démocrates, notamment en raison des de la publication des DNC Leaks. Et d'ailleurs, c'était Hillary Clinton qui avait elle-même proposé d'assassiner Julian Assange. Donc après, elle avait dit que c'était un peu une provocation, mais politiquement, il y a assez peu d'espoir pour Julian Assange.
Merci beaucoup Jérôme Mourdeau. On peut lire vos comptes rendus du procès sur le site de Mediapart. Bonne journée.
France Culture. L'esprit d'ouverture.
Le jeudi. Tirons des plans sur la comète, Dominique Rousset.
Avec Nos Géographies, une intrusion par les cartes et les territoires dans les champs du politique, du social, de l'écologie, des pratiques culturelles, grâce à l'exploration d'une discipline à la fois très ancienne et sans cesse renouvelée, assez méconnue en fait. Nos Géographies, le titre que nous avons choisi parce qu'elles sont diverses et qu'elles parlent toujours de nous où qu'elles se trouvent.
Nos Géographies, le jeudi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Bon, Radio Couloir attendait d'autres résultats pour la présidentielle américaine.
Bah oui, depuis une heure précoce de la nuit, Julie, nous sommes là. C'est un peu la consternation dans ce média très particulier, Radio Couloir. Radio Couloir étant constitué du bureau des matins, 7E41, c'est son nom. Le bocal, le lieu où on concocte les journaux de jour et de nuit, surtout de nuit, avec au milieu la directrice adjointe adjointe de la rédaction, Clotilde Dumès, installée dans un bureau qui fait office de checkpoint. Alors c'est un peu notre nuit d'Halloween à nous, les bonbons en moins. Personne ou presque n'a dormi, d'où ce teint de déterré. Catherine Dutu a déjà sacrifié trois souris d'ordinateur, je veux dire. Aucun animal n'a encore été blessé dans cet exercice. Clara Lecoq-Réal grommelle dans un langage qui n'appartient qu'à elle. Elle parle en langue. Martin Descloseaux, l'assistant d'édition, enfonce sa casquette le plus profondément possible sur son crâne, lequel crâne, je dois dire, est de plus en plus dégarni, tandis que le réalisateur des matins, Vivien Demeyer, se lamente sur notre sort. La différence entre le couloir 7E de la maison de la radio et le mur des lamentations, c'est qu'ici, il y a un mur de chaque côté, donc c'est la consternation, parce qu'on a parié sur le résultat des élections américaines, et je vous dirai pas ce qu'on a parié, neutralité oblige, mais enfin, nous sommes sacrément défaits, ce qui, évidemment, avec le manque de sommeil, rend à peu près tout le monde irascible, sauf moi, parce que je suis toujours de bonne humeur, n'est-ce pas Julie ?
N'est-ce pas ?
Les journalistes ne sont pas tous à gauche, c'est faux, il y en a aussi qui sont démocrates, je veux dire, qui estimaient que la victoire de Biden était une bonne chose, parce qu'ils lisent par exemple le New York Times, et parce qu'ils pensent aussi que c'était une bonne chose pour les États-Unis et le monde, et certains avaient parié sur une victoire nette du dit Biden. Je crois même qu'une bonne part de la rédaction de France Culture va se retrouver sans le sou si Biden ne l'emporte pas nettement, ce qui semble déjà être largement le cas. Mais oui, personne ne voulait de ce scénario pour les élections américaines, à la limite que Trump l'emporte. C'est la démocratie, on a survécu à tout, alors ça en plus, pourquoi pas ? Mais alors autant qu'il l'emporte vraiment et qu'on n'en parle plus pour que l'on puisse tous aller se coucher.